C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous recevons sur notre antenne l'abbé Philippe Aristeuil. Bonjour.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous.
Vous êtes l'aumônier du centre hospitalier de la Côte Basque. On vous a invité à l'occasion des fêtes de Noël pour nous parler un peu de la pastorale de la santé, de ce qui se vit dans votre ministère et dans tous les établissements dans lesquels vous intervenez avec l'équipe, parce que vous avez une équipe d'aumônerie.
Nous avons une équipe d'aumônerie renouvelée. Voilà, et c'est un petit peu la renaissance de ce service de l'aumônerie, voilà, et où nous pouvons de nouveau avoir des projets en direction des familles, des patients, des personnels et des résidents d'EHPAD pour être plus proches d'eux encore et les visiter, puisque Noël est ce temps aussi de la visite et de la proximité.
Alors, quand on dit aumônier de l'hôpital, on pense qu'à l'hôpital Saint-Léon à Bayonne, mais il n'y a pas que l'hôpital Saint-Léon à Bayonne.
Non, il n'y a pas que l'hôpital Saint-Léon à Bayonne, puisque de toute façon déjà il s'appelle Centre Hospitalier à Côte Basque. Donc il y a bien sûr Saint-Léon à Bayonne qui est le cœur de l'hôpital, où il y a à la fois tout le côté administratif de ce grand centre hospitalier, et également l'essentiel des patients qui passent. Mais il y a déjà sur Bayonne les EHPAD qui sont sur Camp de Prats, avec Gauchoqui, les Arraillades, Arguia, le Prissé. Il y a la psychiatrie aussi qui est à Camp de Prats, ça c'est pour le pôle bayonnais. Et puis il y a le pôle lusien qui est important, hein, avec l'hôpital de Saint-Jean-de-Luz qui a été rénové, et les deux EHPAD que sont Oudaskena et Egouskia, l'ancienne Tricaldi, qui ont été entièrement refaits. Enfin, les anciens bâtiments ont été détruits et les nouveaux bâtiments ont été construits juste à côté de la nouvelle salle culturelle de Saint-Jean-de-Luz, un grand pôle là aussi. Et puis, et maintenant, il y a l'intérieur du pays aussi.
Qui compose l'équipe d'aumônerie aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, eh bien, on va fêter quasiment la première année de l'arrivée de Victoire Machicotte, qui vient de, qui habite Itsassou, voilà, et qui est une mère de famille, qui est impliquée sur la paroisse, mais qui souhaitait aussi eh bien, retrouver peut-être un petit peu ce milieu hospitalier qu'elle connaissait, et donc qui depuis janvier dernier occupe un poste à mi-temps, donc au service de l'aumônerie. Et puis, depuis le 1er novembre, il y a Sandrine, qui est une jeune maman de 38 ans, et qui est de Bidart, et qui elle aussi eh bien, refait tout un cheminement et était déjà engagée dans l'accompagnement des fins de vie avec Alliance 64, mais souhaitait un accompagnement peut-être plus régulier et puis plus spirituel aussi. Et donc, voilà, donc nous sommes trois, puisque moi, j'ai aussi un autre poste à mi-temps. Il y a un poste et demi qui sont payés par l'hôpital de Bayonne. Tous les hôpitaux de France sont tenus par la loi, depuis la séparation d'Église et d'État, d'octroyer des postes pour les cultes. Et donc, nous avons la chance d'avoir ça sur le centre hospitalier à Côte Basque.
Abbé Philippe Aristeuil, votre mission auprès des personnes malades, c'est d'être proche d'elles, de les accompagner quand elles en font la demande.
Alors ça, c'est peut-être une nouveauté que les gens n'ont pas encore intégrée. On est encore dans l'idée que bien, voilà, les services d'aumônerie toquent à toutes les portes, passent dans tous les services. Cela, depuis déjà de nombreuses années, en principe, la loi ne l'autorise plus. Voilà, mais cela revient, c'est d'ailleurs dans le droit chemin de la liberté de chaque personne et surtout eh bien, du droit du patient. C'est le patient en premier qui fait la demande, s'il souhaite ou non, le passage du service de l'aumônerie. Alors quand le patient ne peut pas s'exprimer ou autre, bien, c'est la famille. Ou alors le service, parce que il y a énormément de personnels soignants qui sont très attentifs aussi aux moindres détails des chambres. Et lorsque, bien sûr, bien une infirmière, aide-soignante ou personnel service, eh bien, on voit qu'il y a une vierge sur la table de nuit, qu'il y a un chapelet, ou que la personne regarde ou écoute, regardent la messe à la télé ou écoutent Radio Lapourdi ou autre, eh bien, lui proposent, mais voudriez pas le passage de l'aumônerie? Ah oui, pourquoi pas? Et c'est comme ça que les choses s'instaurent. Et je dois dire que tous les services font très bon accueil à l'aumônerie.
Vous devez être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors comment ça se passe concrètement? Il y a une permanence téléphonique constante. Voilà, quelqu'un, un de nous trois, a la ligne téléphonique. Donc le week-end, nous assurons les urgences, c'est-à-dire lorsqu'il y a une demande de sacrement des malades. Voilà. Tout ce qui est communion et autres, et visite habituelle, c'est du lundi au vendredi. Et lorsque je suis sur place, eh bien, y compris la nuit, si je suis appelé, eh bien, je me rends au centre hospitalier. Et lorsque je suis dans d'autres missions, puisque j'ai également d'autres missions diocésaines, eh bien, j'ai les confrères bayonnais quand même que je remercie, qui répondent présents lorsque Victoire ou Sandrine font appel à eux.
Or, tous les jours, vous êtes confronté à la maladie des patients, fin de vie, au handicap. Comment garder l'espérance avec l'équipe d'aumônerie dans ce contexte?
Mais comment garder l'espérance en élargissant un petit peu l'approche de la personne. C'est important, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je crois que c'est important que dans une équipe d'aumônerie, il y ait à la fois des laïcs et des religieux ou un prêtre, parce que ça donne une ouverture différente, je crois. Et lorsque, également, on a la chance d'être, et c'est mon cas quand même, d'être du pays, d'avoir côtoyé que ce soit la côte, l'intérieur ou autre, de connaître quand même l'histoire de notre pays, ben ça permet d'avoir un échange au-delà de la maladie et on voit tout de suite la personne qui nous a appelé ou autre, eh bien, changer de visage, sourire, rigoler. Et je crois que ça c'est important, cette proximité et de s'intéresser à la vie d'une personne. Et lorsque la famille est là, de refaire vivre aussi eh bien, des tranches de vie, quel que soit l'état de santé de la personne, parce que la personne est toujours attentive à tout cela.
Est-ce que le personnel médical ou le personnel de service de l'hôpital, des fois, vous sollicite, vous demande un peu votre écoute, votre bienveillance devant des cas difficiles ou pas du tout?
Alors, nous avons l'expérience qui est de plus en plus renouvelée de travail en lien avec notamment les équipes de soins palliatifs, voilà, et les psychologues. Voilà. Qui, de temps à autre, oui, nous appelle en disant « ce serait pas mal que vous passiez voir peut-être telle ou telle personne, parce que cela va au-delà et je crois qu'il y a des questions de sens qui se posent, donc peut-être que vous êtes à même aussi d'apporter votre contribution. » Et on essaie de travailler en soutien, en complémentarité.
À propos de la fin de vie, bon, il y a un débat, il va y avoir peut-être une loi qui va être votée. Comment vous voyez les choses?
Bien, j'entendais encore ce matin la ministre qui est chargée de cela intervenir. Je crois que nos responsables ont pris la mesure aussi de l'importance de ce débat, qu'il fallait prendre le temps. J'ai l'impression que au final, bien, c'est tout d'abord sur vraiment la proposition des soins palliatifs sur tout le territoire français qui sera abordée. Et ensuite, comment est-ce que, puisqu'on cherche apparemment un modèle à la française, comment est-ce que cela sera abordé pour des fins de vie? Je note, il y a beaucoup de peur, mais il y a beaucoup de soignants aussi qui se sont exprimés, qui continuent à s'exprimer, et cela demande beaucoup de prudence. Après, nous avons déjà une loi qui existe, la loi Claeys-Leonetti, et qui n'est pas encore suffisamment certainement connu ni appliqué. Voilà. Donc c'est en premier lieu cela certainement qu'il faut sur quoi il faut insister et ensuite voir comment avancer, mais en étant très très prudent, parce que là vraiment on touche à du domaine vraiment sur la dignité de la personne humaine. Alors les grands débats, on ne va pas les refaire ici, mais je crois que c'est important que tout le monde s'en saisisse.
Abbé Philippe Aristoy, pour terminer, vous voulez nous partager un texte, je crois?
Oui, alors c'est un texte par rapport à tout ce qu'on essaie de vivre un petit peu au quotidien, et c'est un médecin qui travaille en médecine palliative qui a relaté un petit peu son expérience. Miette de temps. C'est pour le malade que nous n'avons pas assez de temps. Car le temps de la rencontre, c'est le temps qui s'arrête et qui offre un espace sans frontières, incompressible. C'est une longue note de clarinette, une œuvre de Mozart où tout s'arrête dans un instant suspendu. Ce temps que le malade vient d'interrompre de son regard, ce moment où silencieusement il s'impose, demandant d'être entendu ou peut-être seulement regardé. C'est le lieu de l'essentiel, il l'emporte sur tout. Au milieu du brouhaha de l'hôpital, un regard en rejoint un autre. Seulement quelques mots sont échangés, une intuition frappe à la porte, une brise d'ailleurs nous emporte brièvement tous les deux. C'est tout ce qui se passera. Était-ce utile ? Voici une histoire qui montre qu'on ne maîtrise pas ce qui peut se passer en un instant de rencontre. Nous avions passé une heure et demie à faire connaissance un vendredi après-midi. Elle m'avait parlé de sa vie, de ses espoirs, de sa peine, de l'échéance qui lui fait peur, de sa fragilité, de ceux qui resteront derrière elle. Elle avait spontanément fait avec moi un tour dans son jardin, simplement comme pour le revisiter. Le promeneur invité que j'étais ouvrait, sans le savoir, des portes inconnues, qui seraient restées closes sans promenade dans un lieu familier pour elle. Le lundi suivant, je passe la voir. Elle part pour la salle d'opération, déjà allongée sur une civière. L'infirmier s'affaire autour d'elle. Je n'ai que le temps de lui envoyer la main. 3 jours après, je la revois. « Si vous saviez comme notre dernière rencontre m'a fait du bien. »« Mais madame, je n'ai pas pu que vous adresser un geste de la main. »« Vous partiez pour la salle d'opération. »« Oui, mais quand je vous ai vu, notre rencontre de vendredi dernier m'est remontée à la mémoire. » J'étais effrayée, éclatée en 1000 morceaux, perdue en moi-même, anxieuse. Et voilà que votre discret bonjour m'a soudain réunifiée. Je suis partie en salle d'opération, apaisée et confiante dans l'avenir. Merci. J'étais à 1000 lieues de penser que ce petit moment avait eu autant de valeur pour elle. Nous n'avions bien souvent que des miettes de temps pour la rencontre, des miettes qui peuvent être des paillettes d'or, denses, précieuses. Chaque miette peut être porteuse de brise. Il suffit de les vivre au présent. Alors n'attendons pas d'avoir un temps que nous n'aurions jamais. Le temps qu'on a mérite d'être occupé. Il peut être très riche. Témoignage de Patrick Vinet, qui est en médecine palliative au Québec.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Aristoy, d'avoir partagé sur Radio La Pourdie ces miettes de temps avec nos auditeurs. Et nous pensons particulièrement aux personnes malades, âgées, isolées. Et nous souhaitons à tous les auditeurs un très bon Noël. Merci à vous.
Voilà, bon et joyeux Noël à toutes et à tous. Et Guy Bréon, Denelli.